Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Christian de Boissieu.
Bonjour.
Bienvenue, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes qui est partenaire de cette émission chaque jeudi. Vous avez coécrit justement un livre de contribution, Le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui ou la mondialisation en question ? On est en plein dans le sujet chez Laurent Duménil, éditeur. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
Fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès. Vous avez publié La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir chez XO Éditions. Quand je lis, c'est marrant, en voyant le Haut Conseil des finances publiques et que le fait que vous étiez là, je me suis dit, avoir confiance en l'avenir, c'est chaud, là, quand on lit les conclusions du Haut Conseil. Bonjour Jean-Marc Daniel.
Rebonjour.
Que je ne présente plus, mais il est professeur à l'ESCP, il a publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob, membre du comité éditorial de Pour l'écho, dont j'ai laissé le numéro sur mon bureau, comme souvent.
Oui, c'est sur l'Europe qui est quand même dans l'actualité, donc, et notamment au travers du Haut Conseil des finances publiques, qui est issu de l'Europe.
Comment vous réagissez ? Je vais commencer par vous, Christian de Boissieu. Ça fait encore plus longtemps que moi que vous suivez l'économie, les exercices budgétaires. J'ai jamais vu des... Alors, c'est un document de magistrat, le Haut Conseil des finances publiques, donc tous les mots sont pesés. Manque de sincérité sur les comptes publics, surévaluation sur la croissance 2027, les fameuses économies annoncées à l'horizon 2024-2025 et les suivants sont lacunaires. La trajectoire de retour sur les 3%, manque de cohérence. Et les experts des finances à Bercy, dans ce type de situation, diraient que la trajectoire des finances de la France, c'est un oiseau qui ne vole pas. Écoute, je trouve que là, j'en parlerai à Gabriel Attal ce soir, mais j'aurais jamais osé utiliser des mots pareils.
Écoutez, d'abord, je trouve qu'il joue son rôle. C'est un organisme indépendant.
Plus près le micro.
Indépendant, alors qu'il rassemble quoi ? Des magistrats de la Cour des comptes et des experts.
Absolument.
Essentiellement des économistes qui sont nommés pour 5 ans. Par évocable, et je trouve qu'il remplit son rôle, parce que c'est pas la première fois que le Haut Conseil critique la trajectoire, mais comme vous le dites, c'est la première fois qu'il le fait avec autant de force. Deuxième remarque, alors il y a l'éternel débat sur les hypothèses de croissance. Bon, alors là, chacun y va de sa prévision. Il est clair que le gouvernement, en affichant une croissance de 1% pour cette année 2024, a une approche, j'allais dire, un peu normative. Bon, c'est un objectif. Le Fonds monétaire, dans les prévisions qui sont sorties il y a quelques jours, prévoit pour la France une croissance de 0,7. Donc pas 1%.
L'OFCE, 0,5.
Bon, la Banque de France est à 0,8 ou 0,9. Donc on est entre 0,7 et 1. Et là, j'ai entendu M. Cazenave, le ministre des Comptes publics, qui dit au fond... C'est de l'ordre de l'écart admissible compte tenu des erreurs de prévision. Peut-être, mais je veux dire, ça fait une partie de la différence. Parce que les écarts de croissance pour l'année prochaine 2025 sont moins nets. C'est-à-dire qu'on prévoit un peu partout une reprise compte tenu du fait que les taux d'intérêt vont finir par baisser. Je parle des taux d'intérêt de la... directeur de la Banque Centrale Européenne, que l'inflation a un peu baissé, ça redonne du pouvoir d'achat et que c'est bon pour la consommation, etc. Bon, alors, c'est le premier débat sur la trajectoire de croissance. Le deuxième débat sur la trajectoire des finances publiques et de son lien. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le gouvernement fait quand même l'hypothèse d'une réduction importante entre cette année et l'année prochaine. C'est-à-dire que on a été à 5,5 de déficit public en 2023. Le gouvernement prévoit qu'on sera à 5,1 cette année, 4,1, c'est-à-dire un point de moins l'année prochaine. Puis ensuite, en 26, 3,6 pour arriver en 27.
À 2,9.
Voilà, l'année de la fin du quinquennat, du deuxième quinquennat Macron, à 2,9, c'est-à-dire en dessous de la limite de 3. Bon, Le saut du côté des déficits publics entre cette année et l'année prochaine, c'est un point de PIB. Et donc là, l'hypothèse me paraît quand même relativement importante. Comment on s'y prend? Vous poserez, on y reviendra dans les questions à poser à M. Attal, mais je dirais la question de savoir comment on réduit les dépenses publiques, ça me paraît, moi, la question centrale. Mais
est-ce que plus on va tenter de les réduire, plus les milliards seront chers à trouver, hein?
Et plus ça risque d'avoir un impact. Ouais. Alors, il y a un seuil à partir duquel...
C'est récessif.
Une politique budgétaire restrictive... combiné avec une politique monétaire qui va certes être un peu moins restrictive, un peu expansive, mais lentement, lentement, lentement. La BCE n'a pas baissé la garde très rapidement. Tout ça, ça va avoir un impact sur la croissance. Et c'est là où, je termine là-dessus, le Haut Conseil pose la question de la cohérence.
Oui.
Entre la politique budgétaire suivie, les hypothèses de croissance, etc.
Et c'est très clair, hein. Soit on tient parole et il faut trouver 65 milliards d'euros d'économies et de dépenses à compter d'aujourd'hui jusqu'à 2027, dit le Haut Conseil, soit on tient pas parole. Voilà. Ça vous inspire quoi, Nicolas Bouzou, cette... nous tous, ça fait longtemps qu'on observe la vie économique. J'ai jamais vu au mois d'avril 20 milliards sortir du chapeau comme ça d'économie soudaine, en prenant soin en plus d'éviter la loi de finances rectificative pour contourner le Parlement, avec une espèce de sentiment d'urgence et d'impréparation totale, ce que d'ailleurs dit aussi le Haut Conseil des Finances Publiques. Il y a un côté... situation plus périlleuse que d'habitude. Je ne sais pas comment l'interpréter. Quel est votre avis?
Je pense surtout que ce qui a fâché beaucoup de gens, et notamment le Conseil des Finances Publiques, à fort juste titre, on en a déjà parlé, mais c'est pas tant le déficit que le fait que le déficit avait déjà commencé à déraper très fortement à la fin de l'année 2023 et que finalement ça n'a pas été pris en compte dans les hypothèses de 2024. Et c'est là d'où vient cette notion d'insincérité. Et en fait, c'est d'autant plus étonnant que les observateurs ont fond, certains l'avaient dit, le déficit de l'État, c'est très facile à suivre puisque Bercy publie des situations budgétaires de l'État tous les mois qui sont publiées sur le site de Bercy, donc c'est très facile à voir en réalité.
De l'État, on entend bien l'État. Hein.
Oui, mais enfin, les collectivités locales, elles n'ont pas de déficit parce que c'est interdit, donc c'est pas le sujet. Quant à la sécurité sociale, elle a un déficit, mais en réalité, une grosse partie des difficultés financières de la sécurité sociale sont prises en charge par l'État parce que beaucoup de choses, des exonérations de charges sont compensées, etc. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut regarder, si on veut vraiment avoir la vision la plus précise des choses, en réalité, c'est le déficit de l'État. Et donc, quand on regardait ça en 2023, on a bien vu novembre, décembre 2023, qu'il y avait un dérapage très important. D'ailleurs, je voudrais rappeler qu'au fond, on était en matière de déficit, en fin d'année 2023, à peu près sur les niveaux, à quelques milliards près, de 2020, qui était l'année du quoi qu'il en coûte. Donc, on voit que, en fait...
C'est très frappant d'ailleurs, qu'on en soit encore à ces niveaux-là, tandis qu'on a débranché des dispositifs.
Et ce qui est très agaçant, pour le coup, c'est qu'en effet, ça n'a pas été analysé pour faire le budget 2024, et ça n'a pas été pris en compte dans le budget 2024. Donc, pour le coup, cette notion d'insincérité, si vous voulez, elle est quand même justifiée. Voilà. Il y a vraiment un problème dans la conception du budget 2024. Après, sur les baisses de dépenses, bon, déjà... Grosso modo, hein, sur la moitié des baisses de dépenses qui ont été annoncées, vous avez une moitié, c'est pas vraiment des baisses de dépenses.
C'est déjà des
artifices
crédit.
Des artifices comptables. C'est-à-dire que vous avez des réserves dans les ministères pour parer à l'urgence, etc. Vous réduisez ça. Donc, en fait, ça fait une baisse de dépenses au niveau comptable, mais du point de vue du cash, pour parler dans le langage d'entreprise, ça ne change absolument rien. Vous avez aussi beaucoup de reports de projets immobiliers, d'embauches, etc. Donc, on reporte quand même en grande partie l'effort sur 2025. Mais en même temps, c'est un peu normal, puisque cette stratégie du rabot, ça fait très longtemps qu'on la mène. D'ailleurs, à chaque fois qu'on la mène, on dit c'est la dernière fois.
Oui.
Et puis, on continue.
Promis de ma charrette de bois.
Il y a plus grand-chose à faire. Et là encore, les gens qui nous écoutent, qui pour beaucoup sont des responsables d'entreprise, voient bien que si dans une entreprise, on vous dit année après année... réduisez les dépenses, réduisez les coûts, mais on ne touche absolument à rien aux structures. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout la main sur les ressources humaines, vous n'avez pas du tout la main sur l'organisation, vous n'avez quasiment pas la main sur les investissements. En réalité, vous arrivez très rapidement à une limite où vous ne pouvez plus réduire grand-chose. Et en fait, j'irais même un peu plus loin. Moi, mon idée, c'est qu'en fait, si on veut réduire les déficits... durablement, il faut les augmenter un peu. Comme quand on fait une restructuration dans une entreprise, au fond, ça coûte toujours un petit peu d'argent au début. Si vous voulez faire de grosses économies, par exemple, à l'hôpital aujourd'hui, l'hôpital qui est vraiment organisé absolument n'importe comment, ça coûte très cher. J'étais l'autre jour, je faisais une conférence avec le CHU de Lille, il m'expliquait qu'ils étaient encore au fax, vous voyez. Bon, voilà. Donc, les faire passer à l'email et à l'intelligence artificielle, je suis sûr que c'est quelque chose qui est très bon à l'horizon de 2 ou 3 ans.
Mais il faut payer d'abord.
Ah, ça coûte forcément un petit peu d'argent tout de suite.
Il faut payer pour réformer en récolte.
Et donc, en fait, une trajectoire crédible, en fait, des finances publiques serait pas une trajectoire qui dirait, là, on va faire 20 milliards d'économies, là, tout de suite, parce que, en fait,
c'est ce qu'on fait.
Mais en fait, on sait bien qu'on peut pas, et donc, on est obligé de passer par les artifices dont j'ai parlé. Une trajectoire crédible des finances publiques serait de dire, bah, regardez, on met un certain nombre de choses sur la table, on regarde, la fin du statut de la fonction publique, par exemple, ça, je pense que c'est un bon sujet. Mais on en est là. Donc, moi, je pense que c'est un bon sujet. Mais évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va faire en 3 semaines. Et sans doute, ça coûte un peu d'argent au début.
Parce que là, les 20 milliards, on les met en urgence. Mais on annonce déjà qu'on en a 20 supplémentaires en 2024. Chaque fois que vous allez en avoir des supplémentaires, il y a un moment, le gel du crédit de réserve, ça touche ses limites. Ouais. Hein, ça touche ses limites. En plus, je vous rappelle que la LOLF permet, en théorie, par décret, d'agir sur 11 ou 12 milliards max. Alors là, on a filouté avec l'histoire d'aller gonfler les rentes inframarginales qu'on va taxer chez les producteurs d'énergie, tordre le cou des collectivités locales pour leur demander 2,5 milliards, pour surtout ne pas passer devant les parlementaires. 65 milliards d'ici 2027, Jean-Marc Daniel.
Oui.
Est-ce que là, on se paye de mots? Et puis surtout, la question suivante, est-ce qu'il faut vraiment totalement enterrer toute baisse d'impôts dès 2025?
Alors, je vais réagir un peu à toute la conversation.
Oui, voilà.
Moi, il y a 3 mots que je mettrai en avant, c'est Hippolyte, Théodule, Gustave. C'est quoi? C'est le nom que mettait en avant le général de Gaulle pour qualifier les comités qui servent à rien. Donc je pense que le Conseil des finances publiques est un comité Théodule, Gustave ou Hippolyte. Ça ne sert à rien, contrairement à ce que vous dites, ça n'existe pas depuis très longtemps. Donc on n'a pas de référence historique.
10 ans, disant, ça fait 10 ans qu'il est.
En disant, c'est la première fois, il n'y a pas d'histoire de ce truc. Et en plus, ce truc...
J'ai pas dit que ça avait du pouvoir. Hein.
Non,
c'est consultatif.
Ça n'a aucun pouvoir. Le mot insincérité n'est pas du tout ce qu'on raconte. Insincérité, c'est un terme juridique
très précis.
Très précis. Et ça ne veut pas dire que les hypothèses de croissance ne sont pas les bonnes. La sincérité, c'est de mentir sur les dépenses et de ne pas inscrire dans le budget les dépenses qui correspondent à, par exemple, de ne pas inscrire la masse salariale qui devrait être inscrite. En revanche, sur les hypothèses de croissance économique, il n'y a pas d'insincérité.
Ah non, là, c'est jugé surévalué.
C'est surévalué, c'est pas insincère, on n'en sait rien. Et le gouvernement a raison de dire, écoutez, vous nous aviez annoncé qu'on ne ferait pas 1% de croissance en 2023, on a fait 1% de croissance. Donc, qu'est-ce que vous permettez de dire qu'on est insincère? Donc, insincérité, ça n'est pas du tout le mot adapté.
Dans le rapport, c'est pas.
Oui,
j'entends
bien. Mais, et il n'y a pas d'insincérité. Les dépenses qui sont inscrites, je maintiens, sont calibrées pour financer effectivement les services publics tels qu'ils fonctionnent à l'heure actuelle. Donc le véritable problème, c'est pas ça. Et je maintiens, le véritable problème, c'est quelle est la pertinence de ce que raconte ce comité. Elle est nulle, cette pertinence. Alors, je pense que la vraie question.
Vous êtes content au Conseil. Allez-y, continuez.
Écoutez, tous les actions dans les comités Théodule et tout ça, ils savent la réalité de ce qui.
Bon. Allez-y, donc, Jean-Marc.
Concrètement, effectivement, il y a un problème de redressement de la situation des finances publiques avec une question de la part d'un gouvernement qui, quand il a été mis en place, je rappelle quand même le discours de politique générale d'Édouard Philippe, je rappelle que M. le maire était déjà là et que M. le maire avait déjà annoncé qu'il ferait 60 milliards d'économies pendant les 60 milliards d'économies étaient programmés, annoncés en 2017. Donc ils ne sont pas là, ils n'ont pas été réalisés. Et donc je pense qu'effectivement, par rapport à cette situation, il y a 3 éléments à constater. D'abord aussi, ça concerne essentiellement l'État, le déficit, mais toutes les finances publiques sont dans une situation calamiteuse. La sécurité sociale continue à être en déficit. Je rappelle qu'au moment du débat sur les retraites, le premier débat, celui juste avant la Covid, les gens qui disaient il n'y a pas besoin de supprimer le système tel qu'il est, il n'y a pas besoin de réformer le système tel qu'il est parce qu'en 2024, la dette sociale aura disparu et on pourra utiliser la CRDS pour financer la retraite.
Oui, je me souviens. Oui.
En 2024...
Il n'y a que ceux qui disaient ça qui y croyaient, mais bon...
Tout le monde disait, il s'appuyait sur les documents officiels. Je ne sais pas qui le croyait, mais il s'appuyait sur les documents officiels. Donc je pense que les collectivités locales, dont on dit qu'elles sont à l'équilibre, ne sont pas à l'équilibre. Je rappelle que le département de l'Aisne refuse de voter son budget, le département de la Loire-Atlantique va être mis sous tutelle du préfet, parce que leurs recettes ont considérablement diminué, alors que leurs dépenses augmentent, et ils sont dans l'incapacité d'honorer leurs engagements, puisque leurs recettes, c'est lié au marché immobilier qui est en train de baisser, de s'effondrer.
Bien sûr.
Et leurs dépenses, c'est des dépenses sociales qui, elles, continuent. Donc, le problème est général. Il ne concerne pas que l'État. Il y a une vraie réflexion à avoir. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'effectivement, il faut raisonner en structurel et pas en conjoncturel.
C'est Nicolas.
Nicolas. Ah oui. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y ait une baisse des recettes en ce moment, c'est le véritable enjeu. Là aussi, je renvoie au papier d'Olivier Blanchard, qui dit bien que le problème, c'est un problème de déficit structurel, et qu'il faut accepter un déficit conjoncturel. C'est-à-dire, il faut accepter que les stabilisateurs automatiques fonctionnent dans les situations où il y a un ralentissement de croissance. Donc, il faut identifier les vrais problèmes structurels. Donc,
mais c'est plus de boulot, c'est moins visible tout de suite.
Oui, mais ça, c'est le travail du ministre des Finances.
Encore une fois, d'un ministre
des Finances qui a été élu sur un programme de 60 milliards d'économies. Donc, je pense qu'il faut, et donc, effectivement, poser le problème du statut de la fonction publique, ce genre de choses, d'une commission de la hache, de supprimer 50 000 emplois. On avait annoncé en 2017 qu'on supprimerait 120 000 emplois, donc faire les 120 000 emplois. Le troisième élément que je mettrai en avant, c'est le fait que la facilité qui consiste à augmenter les impôts est une facilité qui est, à mon avis, qui n'a aucun sens économique. Parce que toute augmentation d'impôts, c'est une diminution de la dépense privée. C'est-à-dire, une augmentation d'impôts, c'est un arbitrage entre baisse de la dépense publique et baisse de la dépense privée. Et donc, ce n'est pas un problème de faire payer les riches. C'est un problème de savoir est-ce que la dépense privée, dans la circonstance actuelle, est plus ou moins efficace pour la croissance que la dépense publique. Et je crois que c'est le cas. Et donc, je pense qu'il faut afficher qu'on n'augmentera pas les impôts, non pas pour des raisons de promesses électorales, pour des raisons de satisfaction, pour des raisons politiques, mais pour des raisons d'efficacité économique.
Votre avis, justement, sur les impôts. Alors, je ne sais pas si c'est un comité Théodule totalement inutile, mais enfin, il existe depuis 10 ans, le Haut Conseil des Finances publiques.
Gustave et Hippolyte.
Mais justement, la recommandation, c'est on arrête tout de suite les promesses de baisse d'impôts dès 2025.
Est-ce que je peux d'abord défendre un tout petit peu...
Vous pouvez défendre...
Certains comités, je n'ai jamais fait partie du Haut Conseil des Finances publiques, j'ai été dans d'autres comités Théodule.
Gustave
et Hippolyte.
J'ai beaucoup d'invités qui viennent ici qui en ont fait partie.
Mais ceci dit... pour moi, pour avoir présidé le Conseil d'analyse économique pendant 8 ans, je ne mettrai pas dans les comités Théodule. Bon, je trouve que au Conseil des finances publiques, il est dans son rôle. Il ne coûte pas très cher. À ma connaissance, je n'ai pas été membre, mais à ma connaissance, les membres ne sont pas rémunérés.
Non, ils sont pas, je peux vous le dire. On ne leur paye même pas le taxi quand ça termine en pleine nuit.
Ça alimente le débat. Et on n'a pas été au bout. Et c'est là où je rejoins Jean-Marc en négatif, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas été sur le modèle américain du Congressional Budget Office, le CBO, qui a beau être dépendre du Congrès.
Qui dépend du Congrès. La démocratie, c'est de faire dépendre les problèmes budgétaires du Parlement, du Congrès.
Mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est qu'il a beau dépendre du Parlement, il est scientifiquement indépendant.
Absolument.
Pour avoir suivi les travaux du CBO quand j'étais aux États-Unis, je peux vous dire que là, le Haut Conseil est un peu le derrière entre deux chaises, si je puis dire. Bon, voilà. Deuxièmement, sur le déficit structurel, je crois qu'on est tous les trois d'accord pour dire que il faut distinguer ce qui relève de la conjoncture et ce qui relève des décisions de politique publique.
Bon, et du climat du moment. Oui.
D'ailleurs, dans la réforme du pacte de stabilité au niveau européen, réforme qui est incompréhensible, j'ai eu l'occasion de le dire, trop complexe.
On l'avait détaillé ici.
Trop complexe. On a maintenu quand même la référence au déficit structurel qui était déjà dans la première mouture de ce pacte. Et, ceci dit, parenthèse, pour avoir aussi travaillé sur le calcul du déficit structurel, les travaux de l'OCDE, les travaux des instituts de conjoncture, c'est utile. Ça pose aussi des questions de calcul, hein, on est bien d'accord. Alors, je reviens sur votre question sur les impôts. Moi, je pense que pour prendre l'exemple, par exemple, des impôts de production, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, l'État, que je sache, a pris des engagements de baisse des impôts de production.
Oui.
Bon, alors il a commencé à les réduire de 10 milliards, etc. Et on nous a dit, du côté de Monsieur le maire de Bercy, qu'on allait continuer à baisser les impôts de production. Alors, en plus, je veux dire, pour rejoindre l'articulation entre la politique budgétaire et fiscale et la conjoncture, baisser certains impôts comme celui-là, ça peut avoir un effet bénéfique sur la croissance.
Alors, déjà, ça montera l'impôt sur les sociétés.
Bon, il y a des délais d'action, certes, il y a des délais d'action, mais ça peut relativement jouer. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas partir de l'idée, pas de baisse ou pas de hausse. Moi, je suis plus pragmatique que ça, moi.
Juste pour finir, alors, jouer Jean-Marc, et puis un mot sur les impôts avec Nicolas, et on passera.
Sur les impôts de production, je rappelle quand quand même que à la réunion de d'été de rentrée là du MEDEF,
on a parlé que de la CVAE.
On a parlé que de la CVAE.
C'était les quatre lettres du jour.
Notre ministre a fait une déclaration absolument invraisemblable en disant, il a dit l'opération a commencé et le bilan que je peux faire du début de l'opération, c'est que c'est extrêmement positif parce qu'il y a eu plus de croissance et finalement la baisse d'impôts a été compensée par de nouvelles rentrées fiscales. Et donc, on pouvait penser qu'à partir du moment où ça donne plus d'impôts à la fin, il faudrait prolonger l'opération. Et il dit, mais je n'ai pas les moyens de continuer. Enfin, il y a une espèce de contradiction dans la façon de présenter les choses qui montre qu'il n'y a aucune ossature intellectuelle derrière la démarche autour de ces impôts. Et donc, je pense que le vrai enjeu, c'est effectivement de réfléchir à la fiscalité, non plus en termes, il faut punir les riches, mais en termes d'efficacité de la dépense privée, en termes d'efficacité du prélèvement fiscal, la façon dont le prélèvement fiscal est mené.
Juste pour terminer, Nicolas.
Et oui, comparaison de la dépense privée à la dépense publique.
Nicolas Bouzou, par rapport à cette injonction de la Cour des comptes, on arrête toute baisse d'impôts.
Alors, sur la baisse de l'impôt sur le revenu, les 2 milliards, ça, je suis complètement opposé à cette baisse d'impôts parce que.
Opposé au fait qu'on les baisse.
Cette baisse existe depuis le début. Oui, parce d'accord. qu'en réalité, tout dépend ce que vous appelez les classes moyennes. Le Premier ministre avait parlé de classe moyenne, mais classe moyenne, si vous.
Oui, ça fera. C'est-à-dire que c'est 50 ou 60 euros par ménage, quoi.
Voilà, donc c'est un coût budgétaire quand même significatif pour un gain en matière de pouvoir d'achat qui n'est pas très important. En revanche, sur les impôts de production, pour les raisons qui ont été évoquées, je pense qu'il faut continuer cette baisse parce que je suis très attaché quand même à la crédibilité de la politique économique, qui est un énorme problème dans notre pays. Donc je pense que quand il y a des engagements, il faut s'y tenir. Puis en plus, franchement, si on a un impôt dont les effets positifs sont plutôt bien documenté, c'est vraiment ces impôts de production. Et je rappelle juste en.
Donc la suppression est bien documentée.
La suppression est bien documentée, oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, l'allègement, la suppression est bien documentée. Et je renvoie aux travaux toujours remarquables de François Eckhall, qui montre que, en fait, si on regarde les prélèvements obligatoires, ce qu'il appelle les prélèvements obligatoires nets sur les entreprises, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires, y compris les impôts de production, moins toutes les aides, en fait, ces prélèvements nets sont très supérieurs à ce qu'on a en Allemagne, en Italie et en Espagne, donc les trois autres. Plus grosse économie de la zone euro. Donc on est encore à des niveaux de prélèvement obligatoire sur les entreprises nettes des aides qui sont très lourds.
Qu'est-ce qu'un salaire décent ? Alors c'est Michelin qui met les pieds dans le plat, qui a lancé en fait ce chantier en 2020, constatant qu'il avait à peu près 5% de ses salariés en dessous de ce que cette entreprise-là appelle un salaire décent. Je vous donnerai les chiffres. Par exemple, à Paris, c'est deux fois le SMIC, un salaire décent, d'après le patron de Michelin. Et donc, ils ont décidé que les 132 000 salariés dans 175 pays auraient désormais forcément un salaire décent. Aucun salarié de Michelin n'est payé au SMIC aujourd'hui. Et ils promettent aussi un socle de protection sociale à l'ensemble de leurs salariés. On en parle dans un instant, à tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.